Bienvenue dans la Terre à Boire. Bonjour Cédric Clapiche.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Il y a Patrice Defay qui est aussi avec moi.
Bonjour.
Bonjour Patrice. On est dans un lieu du vin parisien, on peut dire, les Caves Le Grand.
Ouais.
C'est un lieu que vous connaissez, que vous fréquentez.
Il y a plusieurs caves que je fréquente à Paris, mais c'est vrai que là, disons que mon bureau de production est pas loin. Et, donc, et je trouve qu'ils ont une bonne sélection, très diversifiée, pas que en Bourgogne, puisque évidemment je connais mieux la Bourgogne, mais en tout cas ils ont toujours des bonnes sélections, et quand ils recommandent des choses, c'est des bonnes recommandations.
Oui, on confirme qu'il y a une belle sélection de vins ici.
Et des vins, beaucoup de vins aussi qui ont un certain âge. C'est intéressant, c'est de voir aussi des vins qui ont de l'âge, c'est plus souvent difficile.
Oui,
les Caves Le Grand permettent, alors, avec un certain budget bien évidemment, de voir des vins qui ont évolué dans le temps.
Des millésimes. Alors avec vous, on va parler évidemment de cinéma, de vin, peut-être de cinéma sur le vin, puisque voilà, le début de cette interview, c'est quand même la sortie de ce film Ce qui nous lie, qui est... Le film que vous avez réalisé...
On est complètement à la page, hein, puisqu'il date de 2017.
Ouais. Tout à fait, mais on l'a revu tous les deux hier soir, pas ensemble, séparément, pour se le remettre un petit peu en tête. On avait beaucoup aimé ce film, et puis au-delà du fait qu'on est des fans de votre cinéma, d'une manière générale, on se partageait ça quand on préparait avec Patrice. On a l'impression que vous êtes le cinéaste de notre génération, un peu, parce qu'on a vu Le Péril Jaune, on avait pratiquement l'âge des personnages, on était un petit peu plus âgés. Et puis, c'est des personnages qui évoluent en 75, qui est l'année de notre naissance. Donc voilà, on a suivi la filmographie de Cédric Clapiche. C'est quelque chose qui nous a accompagnés. Donc c'est vrai qu'en amateur de vin, on avait lancé ce podcast. Et puis, voir sortir ce film, qui en plus... je dois le dire, un excellent cru, à mes yeux en tout cas, un très beau film. On va en parler un petit peu, et puis on a envie de parler aussi de votre rapport au vin, à vous, au-delà du film justement, quelle place le vin peut avoir dans votre vie, et puis vos goûts, votre feeling par rapport au vin. Est-ce que c'est vraiment que la Bourgogne, parce qu'on parle beaucoup de Bourgogne dans Ce qui nous lie, et puis du coup maintenant on vous identifie à ça, ou est-ce que ça va au-delà? Je suis... content qu'on fasse cette interview. Je dois dire que c'est ce qu'on se disait un petit peu avant en micro. Quand je vous ai sollicité, vous avez tout de suite dit oui, ok. Après, ça a pris 3 ans et demi, 4 ans de se caler parce que...
J'ai mûri.
peut-être que vous êtes assez actif et que vous avez fait, je crois, 2 films depuis. Mais en tout cas, c'est sympa d'avoir accepté tout de suite l'invitation, et on est ravis que ça se passe. Et ça se passe ici dans un lieu qui est quand même assez extraordinaire. En plus, ils ont eu la gentillesse ici.
C'est un beau lieu, c'est vrai que ça sent le bois ici. Ouais.
Ils nous ont mis dans un petit coin où il y a des bouteilles partout, un peu comme dans la cave de notre ami Philippe Forbrack. Mais là, c'est plus la vitrine présentée, c'est magnifique. Et là, il y a un vin juste à côté de moi, il y a un Châteauneuf-du-Pape du domaine Charvin, que tu as chroniqué, Patrice.
On a chroniqué il y a quelques temps, oui.
Il y a déjà quelques temps, comme tu dis, quelques années.
Que je ne connais pas, mais j'adore le Châteauneuf-du-Pape.
Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc l'amour du vin ne se limite pas à la Bourgogne, parce que...
Non, effectivement, moi l'amour de la Bourgogne c'est vraiment lié à mon père, en fait. Mon père n'achetait que du Bourgogne, et on allait souvent avec mes deux sœurs en Bourgogne pour déguster des vins, rencontrer des vignerons. Donc il y a vraiment le fait d'avoir été introduit et dans la région et dans le goût du Bourgogne avec mon père. Et puis ensuite, j'ai longtemps vécu avec une femme dont le père ne buvait que du Bordeaux. Donc pendant longtemps, chez lui, c'était vraiment le choc des cultures. Et donc j'ai en tout cas découvert le Bordeaux avec mon beau-père. Et donc c'était assez agréable d'avoir cette double culture. Parce que dans le Bordelais, en plus, c'est vraiment... C'est une autre façon de déguster, je dirais. Donc, il y a vraiment d'autres choses à connaître et tout ça. Donc,
qu'est-ce qui serait différent?
Y a un côté plus familial en Bourgogne. Y a pas le côté des châteaux, il y a pas les volumes qu'il y a dans le Bordelais en Bourgogne. Donc c'est pas la même approche.
Peut-être plus loin du vigneron quand on va dans la propriété, on rencontre un commercial plutôt que le vigneron qui fait son vin. Alors y a quelques petits domaines en Bordeaux, donc on est dans les grandes généralités. Mais je pense que on est plus loin du vigneron.
Ouais, puis dans les grands Bordeaux. Il y a toute une série de vins différents. À Aubryon, par exemple, on peut décliner vraiment des styles de vins différents. Et après, alors, quand on est dans les grands vins de Bordeaux, c'est aussi fou que les vins en Bourgogne. Donc, Mais c'est vraiment très différent, parce que là, en plus, alors, si on revient en Bourgogne, il y a une grande différence entre le fait d'apprécier le blanc ou le rouge en Bourgogne. Là, moi, quand j'ai fait le film, Ce qui nous lie, j'ai travaillé chez Jean-Marc Rouleau à Meursault, et c'est vraiment intéressant. Je pense qu'il y a 100 vignerons, il y a 100 domaines, je crois, à Meursault. Et donc, il y a à la fois la différence des gens, comme des auteurs en cinéma, qui ont chacun leur signature, et puis en même temps, les climats de Bourgogne. C'est-à-dire qu'à Meursault, il y a, je ne sais plus combien il y a de climats à Meursault, mais en tout cas, il y a les parcelles quoi, qu'il faut connaître. Et donc, du coup, c'est vraiment intéressant de connaître à la fois les gens et à la fois les lieux, quoi, les lieux dits. La connaissance du vin en Bourgogne n'est pas du tout la même approche que dans le Bordelais, où il y a... Il n'y a pas le côté monocépage dans le Bordelais, donc il y a ce goût de mélanger des cépages en Bordelais. Donc il y a vraiment une approche qui est très différente. Quoi.
Ce qui nous lie n'aurait pas pu être fait en Bordelais, ou alors
c'est
un film très différent.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, évidemment, j'aurais pu choisir une famille avec un domaine un peu plus restreint que des grands châteaux en Bordelais, mais ça n'aurait pas été la même chose. Un peu pareil d'ailleurs, parce que moi, il y a vraiment des vins, on a parlé du Château Neuf du Pape, j'adore beaucoup de Côtes du Rhône et beaucoup de vins du Sud, je dirais, et puis j'aime le vin d'Alsace aussi, donc ça aurait pu être dans d'autres régions, mais c'est vrai qu'en Bourgogne, il y a quelque chose qui était en plus, parce qu'il y a vraiment quelque chose d'un peu central en France, pas central seulement géographiquement, mais je trouve que ça représente un peu le vieux vin français.
L'idée du vin.
Ouais, l'idée du vin, ouais.
Même dans le monde entier, hein, c'est la fascination du vin, bien souvent, la Bourgogne représente un peu.
Parce que c'est l'incarnation absolue de la notion de terroir et de climat.
Ouais, hein, c'est ça.
De chaque, à un mètre près, on n'a pas le même goût du vin, parce qu'on a su, on ne va pas y revenir, hein, mais c'était les moines, la notion de clos, le clos, c'était toute la... Chaque moine travaillait sa parcelle, et on avait une connaissance profonde. Donc c'est vraiment la notion de terroir, à mon avis, qui est magnifiée en Bourgogne. En plus, on peut goûter le terroir, parce que comme on a deux cépages principaux, on peut vraiment faire les différences en ayant un référentiel qui bouge pas, c'est le Pinot Noir, et un référentiel qui bouge pas, c'est le Chardonnay. Donc ça permet vraiment de goûter la différence de manière très objective, alors qu'effectivement à Bordeaux, on a plus ou moins de Cabernet, on a plus ou moins de Merlot, on a plus ou moins de Cabernet Franc, on a plus ou moins de petits verres d'eau, et du coup c'est plus difficile d'avoir une analyse objective quelque part du terroir.
Et ce qui est fou, c'est qu'avec ces deux cépages, avec effectivement le Chardonnay et le Pinot Noir, il y a le fait que chaque année ça change, et que, comme il le disait, à 5 mètres près, une parcelle par rapport à une autre, par rapport à l'écoulement de l'eau, par rapport à la géologie du sol, par rapport à comment le soleil se pose sur cette parcelle, le goût est très très différent. Donc d'une année sur l'autre, suivant l'ensoleillement, suivant les pluies, etc., ça change complètement. Donc du coup, les variables sont infinies, alors qu'il y a deux cépages. Donc ça, c'est vraiment... toujours effarant de voir ça.
Dans Ce qui nous lie, donc, il y a la notion de filiation et de transmission qui est très très forte. Donc vous, c'est venu de votre père principalement, ou il y a eu d'autres influences sur comment on vient au vin? Vous êtes venu à la Bourgogne par votre père, mais est-ce qu'il n'y a que votre père qui vous a amené au vin? Et la deuxième partie de la question, c'est: est-ce que vous voulez transmettre ça à vos enfants?
Alors oui, et c'est agréable, parce que moi j'ai trois enfants qui ont 15 ans, 22 ans et 24 ans, et je peux dire que j'ai déjà transmis ça, même à celui de 15 ans qui boit pas beaucoup, enfin en tout cas, pas que je sache. Mais en tout cas, il a le goût de la dégustation, je dirais. Donc un peu ce qu'on voit avec les enfants dans le film, où déjà dans la dégustation, on essaye de voir quand ça a un goût de fruits rouges, quand ça a un goût de vanille, quand ça a un goût de bois.
Vous avez fait ça avec vos enfants?
Ouais. C'est-à-dire que là, il y a vraiment... les trois, en tout cas, ont vraiment le goût de percevoir des choses, et donc du coup de forger un peu leur goût, et c'est assez agréable de transmettre ça, parce qu'il y a un intérêt. C'est-à-dire que moi je peux aimer par exemple la bière et les bières artisanales, mais c'est pas du tout la même approche quand on goûte différentes bières et qu'on aime différentes bières par rapport au vin, où il y a une espèce de sophistication de ce qu'on interroge dans son palais quand on boit du vin et qui n'est pas du tout la même chose que quand on boit de la bière ou du cidre. Moi, je peux aimer toutes ces choses-là, mais y a vraiment un degré de sophistication qui est assez intéressant.
Est-ce que vous êtes allé jusque, comme dans le film, de leur faire goûter la confiture de framboise?
Non, mais en faisant la scène
de la badiane,
je me dis, mais vraiment, il faut
pourquoi j'ai pas fait ça,
ouais, c'est ça, ouais. Et je sais que je vais le faire. C'est-à-dire que le fait de bander les yeux et de faire goûter ne serait-ce que cassis, framboise, groseille, après, il faut le faire à la bonne période pour qu'il y ait tous ces fruits-là. Mais c'est vrai que ça donne envie de faire ça, pour voir même des choses bêtes, la différence entre le citron et le citron vert. Enfin, il y a des choses évidentes comme le cacao, la vanille ou des choses comme ça qui seront certainement un peu faciles à repérer.
Le litchi, ça c'est facile aussi.
Ouais, c'est ça. Mais je suis curieux justement de donner ça à des enfants. Ouais.
Il y en a un qui est surdoué dans le film, c'est Juliette, qui est manifestement plus douée que les deux autres. Et un qui est plus ou moins complètement à la ramasse, c'est Jérémy, le personnage de François Civil, qui a beau essayer, et on voit qu'il y a pas mal de gros plans sur le fait qu'il vraiment, il se concentre, il essaye de...
On n'est pas égaux devant le ventre, on n'a pas tous le même palais.
Oui, il y a vraiment l'aptitude, quoi. Je crois que tous les vignerons ont déjà testé ça avec leurs enfants. Il y a des gens qui sont plus doués que d'autres. Et après, ça évolue. C'est-à-dire que je pense que en étant enfant ou adolescent, après, par la pratique, on peut vraiment avoir un palais qui est plus précis. C'est un apprentissage, vraiment. Donc, il y a le talent de départ, mais il y a aussi l'apprentissage.
Alors, justement, vous avez dit à plusieurs reprises dans des interviews que ce film, il a mis 10 ans à maturer.
Ouais.
Entre l'idée, vous avez dit, j'ai envie de faire un film sur le vin. Peut-être que c'est lié à ce souvenir du père ou à votre attachement au vin. Mais le film est apparu que 10 ans plus tard. Est-ce que c'est processus classique de vos films ou ce film-là a mis plus de temps que les autres à sortir?
Non, c'est possible que ce soit un processus classique. Là, c'est le film que j'ai fait récemment encore sur la danse. Là, je dirais qu'il a mis
20 ans.
Près de 20 ans à exister. Ça faisait longtemps que je voulais faire un film sur la danse. Non, le film sur le vin, en fait, il y a eu plusieurs choses. D'une part, il me manquait un savoir sur le vin. Et donc tout ce qui est vinification, tout ce qui est... j'avais jamais vu les vendanges, par exemple. Donc la première chose que j'ai fait en me disant j'ai envie de faire un film sur le vin, c'est d'aller assister aux vendanges. Et donc j'ai pris des photos en Bourgogne, donc surtout à Meursault, mais aussi à Vera-Lox-Corton, et où j'ai vu qu'il y a différents sujets dans le vin. Donc il y a un sujet familial et beaucoup une histoire d'héritage. Tous les problèmes fonciers, disons, qui sont liés aux histoires viticoles.
Surtout en Bourgogne.
Surtout en Bourgogne.
Encore plus cristallisant en Bourgogne.
Oui, un peu partout, mais c'est vrai
encore
que...
Encore plus cristallisant en Bourgogne.
Oui, c'est ça. Parce que les domaines sont familiaux, quoi. Mais, ou en tout cas, l'étaient, justement, c'est toute la problématique.
Et les prix sont prohibitifs.
Oui, c'est ça. Mais aussi, il y a ce qui se passe pendant les vendanges, où il y a toute une population qui arrive, qui est soit étrangère, soit estudiantine, soit
qui vient de
des
la
gens
ville.
Locaux qui viennent de la ville et qui viennent faire ça. Et je pense que tous les gens qui ont fait les vendanges voient à quel point, à la fois, il y a quelque chose d'assez fatigant, éreintant, mais totalement joyeux et collectif. Et ça, c'est un moment qui est quand même assez beau à filmer, quoi. Et qui, en plus, quand on filme ça, on voit les enluminures et les... toutes les images qui nous viennent du Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'en fait c'est toujours la même chose, c'est-à-dire quelqu'un avec une hotte qui ramasse le fruit, quoi. Et ces imageries, elles sont très très anciennes, quoi. Donc
c'est un côté assez intemporel du moment, en tout cas.
Complètement, ouais. Et avec un truc vraiment des hommes et des femmes qui ramassent des fruits. Enfin, il y a quelque chose vraiment de presque un peu Adam et Ève, quoi. Donc ça, c'est des moments très beaux à filmer. Il y a tout le rapport avec la nature. Moi, je sais que j'ai eu des grosses discussions sur le fait que la viticulture et la vinification est vraiment comment l'homme transforme la nature et donc aligne des vignes. Donc il y a un moment, on se demande encore si c'est de la nature parce que c'est tellement arrangé par l'homme que ça pose cette question-là. Et puis il y a ce produit qui est un peu magique parce que c'est pas pareil que le jus de fraise ou même le cidre. Enfin, quand on fait du jus à partir des pommes, quand on fait du jus avec le raisin, il y a quelque chose qui est un peu mystérieux et qui fait que d'ailleurs c'est très souvent une boisson religieuse dans plein de religions.
Il y a une dimension mystique.
Il y a une dimension mystique, ouais. Depuis Dionysos, depuis c'est fou à quel point ce produit-là est pas un produit comme quand on ramasse du blé ou quand on ramasse d'autres produits agricoles. Quoi.
Enfin, il y a la maturation, je dirais presque, de documentariste. Hein. Je crois que Rouleau vous a beaucoup aidé sur le... C'est entre le film et le documentaire, en fait, quelque
ouais.
part.
Enfin, ouais, ouais, vraiment.
Le...
Ouais, ouais.
Donc, le... ce qui est peut-être prendre du temps, je ne sais pas, mais c'était votre premier film à la campagne, on va dire ça comme ça. Parce que jusqu'à ce moment-là, vous étiez plutôt un cinéaste de Paris, quand même, globalement.
Ouais, ouais. Enfin, des villes, parce que j'avais urbain, déjà tourné d'autres villes, mais, mais je me suis rendu compte en faisant le film que je n'avais jamais tourné à la campagne, quoi, ce qui était fou. Quoi. Et du coup, c'était un film sur le vin, mais aussi un film sur la nature, d'une façon générale.
C'est plus dur ou c'est plus facile, du coup ?
C'est plus facile.
Dans la campagne,
ville, c'est plus dur. Ouais.
Ah, les contraintes techniques,
oui,
tout ça ?
Oui, puis là, on fait ce qu'on veut dans la nature. Il n'y a pas les riverains. Quoi. Les gens dans certains quartiers à Paris, c'est vraiment une horreur. Certains jours de tournage, quand j'ai tourné devant la Gare du Nord, dans les Poupées Russes, ou quand il y a certains quartiers où les quartiers genre le 16e, le 8e, les gens sont durs, quoi. Donc
j'ai un ami qui habitait dans le 16e et dans l'AG du syndicat propriété, il y en a marre des tournages dans le quartier. C'était à l'AG, hein, c'était dans les questions prioritaires.
Ça, voilà. Et donc on arrive, on est déjà un ennemi, quoi. Alors que dans les villes, les gens sont contents quand on arrive. donc ça change beaucoup, ça. Ouais.
Alors non seulement il se passe pas à Paris, mais alors je pense que c'est le seul film dans lequel il n'y a pas une seule image de Paris. Parce que oui. Encore se passe partiellement aussi à la campagne.
Oui,
mais ça commence quand même,
à l'Opéra de Paris. Ouais. Après, il y a pas mal de temps qui se passe aussi à nouveau à la campagne, quand ça répète avec la troupe de Fechester. Mais il y a toujours un lien quand même. Dans le vin aussi, vous auriez pu trouver la connexion à Paris.
Oui, c'est vrai, j'avais hésité d'ailleurs parce que...
Les bars à vin, ça manque pas dans le 11e.
Non, mais finalement, la seule autre image, c'est l'Australie, même si j'ai pas tourné en Australie.
Ah oui, c'est vrai.
Et on mais voit des vignes en Australie. Ouais. Et donc, et ça me faisait rire d'avoir un coup de téléphone. C'est presque la nuit en Bourgogne et c'est le jour en Australie.
Et on fait le même métier.
Ouais, c'est ça. Ils font vraiment, ils font pas les vendanges au même moment, mais ils font vraiment le même métier. Ouais. Et il y a vraiment, alors ça c'est fou de voir à quel point, je pense que c'est vrai pour toutes les régions en France, parce qu'il y a vraiment du vin presque dans toutes les régions en France, où ils sont en communication avec les autres pays du vin. C'est-à-dire que les gens connaissent le vin en Argentine, au Chili, en Australie, en Italie, en Espagne, dans le Maghreb. Enfin, c'est fou à quel point les gens du vin se connaissent entre eux, entre les différents pays.
À ce propos, est-ce que justement le fait de tourner le film vous a rapproché de ce monde du vin, des vignerons ? C'est déjà un environnement dans lequel vous avez... Enfin, comme le faisait votre père, vous rendez dans les domaines régulièrement.
Non, ça m'a beaucoup rapproché des gens du vin, du monde du vin, parce que d'une part, j'ai appris beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas, qu'il a fallu que j'apprenne. Par exemple, je ne savais pas ce qu'on faisait à chaque époque. C'est-à-dire que tout le travail au printemps, avant les vendanges, quand on prépare, quand on traite les vignes et tout ça, tout le travail qu'on fait en hiver, quand il n'y a pas les feuilles, il n'y a pas le fruit... Donc toutes ces choses-là, je ne les connaissais
C'était
pas.
C'était très important pour vous, en filmant la vie de vigneron, de ne pas faire d'impair sur la
oui.
véracité, la pertinence.
Oui, oui.
Vous avez dit, je crois aussi, que ça s'est tout de suite imposé, le fait d'y aller quatre fois pour avoir les quatre saisons.
Ouais.
Ça ne pouvait pas être un film qui se tourne que pendant les vendanges.
Non, c'est une des choses que j'ai imposées à mon producteur. Et au début, il m'a dit, mais Cédric, tu te rends compte, c'est impossible de faire ça. On ne peut pas tourner pendant un an. Et donc, je lui ai dit, on ne va pas tourner pendant un an, mais on va tourner aux quatre saisons. Et je lui ai imposé ça. Et c'est vraiment quelque chose qui était indispensable. Moi, je vois d'autres films sur le vin où ils ont tourné pendant deux mois, où c'est absurde parce qu'on est obligé de choisir. C'est soit l'automne, soit l'été. Et il y a vraiment toute une partie... Pour moi, justement, le vin, il faut traiter la nature. Et traiter la nature, ça veut dire la traiter à travers l'année, quoi, à travers tout ce qui se passe avec le gel en hiver, la neige éventuellement, le début du printemps. C'est fou à quel point, pour moi, je ne pouvais pas faire ce film sans parler du passage du temps. Quoi.
Ouais, et puis c'est assez complet. Pour un film, on va dire ça comme ça, c'est assez complet parce qu'on voit vraiment la partie, la taille, le brûlage des sarments, les vendanges, le pigeage, le choix aussi qui est assez intéressant, que je pense qu'on n'aurait pas vu dans un film classique. Je rafle pas, non, on va garder à 50%. On sent qu'il y a eu le travail derrière de Rouleau. Alors, il était peut-être
oui,
pas le seul, mais sur
cette
approche-là. Rouleau, d'ailleurs, qui était acteur avant d'être... Vigneron, c'est
oui.
assez, pour moi qui comme je suis, qui est venu à Rouleau par le vin
plein
plutôt.
Plein de films en fait.
Plein de films, tout à fait.
Chez Tavernier, chez Patrice Lecomte.
Il y avait effectivement un côté... il y avait un souci.
Non, et Jean-Marc Rouleau était indispensable dans ce film, parce que hormis le fait qu'il était acteur et vigneron, puis en plus pour lui c'était vraiment comme il a deux métiers vraiment c'était la première fois où il exerçait son métier chez lui quoi. C'est-à-dire que c'était
la maison, le domaine dans lequel on se trouve, c'est le sien.
Alors c'est un mélange parce que il y a la cuverie, c'est chez les Monti. Il y a quand même différents endroits, mais les vignes, c'est beaucoup ses vignes à lui en tout
et
cas.
Et la cour là, parce que
la cour, non, ça c'est à Chassagne et c'est le domaine, comment ça s'appelait
Parce qu'il y a la vue aussi qui est superbe, là, qui donne. Alors, je sais pas, on dirait la colline de Corton en face.
Alors,
ils sont sur le grand.
Ouais, c'est ça, c'est la colline de Corton.
C'est la colline de Corton. Ouais.
Donc on a
qui l'image d'Épinal un petit peu entre guillemets.
Ouais, bien sûr. Ouais. Donc on a tourné dans les beaux endroits, disons. Donc il y a les Hauts de Pommard qu'on a beaucoup filmé. Et puis donc ouais, Puligny, Chassagne et la colline de Corton, c'est un peu les endroits où on a été. Ouais.
Vous avez été influencé par d'autres films sur le vin ou pas du tout? Non, vous avez pas regardé Sideways?
Parce que je n'ai
pas regardé les autres.
C'était pas super.
Pas terrible. Ouais,
non, il y avait le film de Gilles Legrand que j'aimais pour d'autres raisons.
Tu seras mon fils.
Ouais, c'est ça. Ouais, qui est plus un film sur la famille.
Oui, c'est
dire.
Ça. Qui partage des thématiques.
Ouais,
avec,
ouais, complètement.
Ceux
ouais,
qui nous
ouais, ouais. Non, parce que justement, j'avais l'impression que il n'y avait pas de film qui parlait de ce dont je voulais parler, avec ce que vous racontez sur le côté très documentaire du travail à travers les saisons, etc. Donc, puis de ce, la différence qu'il y a entre la viticulture, qui est vraiment le fait qu'une vigne, c'est un jardin, c'est-à-dire qu'on est obligé de se poser des questions de plantation, de comment on élève la vigne, etc. Et puis la vinification, qui est un autre travail vraiment, qui est ce qui se passe à partir du moment où on a pressé le jus et que pour le vin blanc et le rouge c'est pas la même problématique, toutes ces histoires de pigeage, toutes ces histoires de fermentation et du coup il y a vraiment une espèce de dualité dans le travail du vigneron.
Quand parfois c'est séparé les fonctions, hein, notamment à Bordeaux,
ouais, ouais,
à Bordeaux
ouais,
on travaille ouais. La vigne, ouais, mais, et dans les grands domaines, mais
dans les grands domaines c'est séparé, ouais,
c'est
ouais.
Vraiment deux métiers en un, ouais, en un ouais. Entre guillemets.
Dans ce film, ce qui est assez intéressant, c'est que justement sur le côté travail de la vigne, les différents thèmes sont abordés, comme tu disais, érafler, ne pas érafler, ça va avoir un impact sur le vin. Donc là, c'est le travail d'auteur un petit peu. Juliette qui tient à son avis de départ et qui au final est content de constater que son vin il est plus tendu, il a plus de corps. Donc au passage, on apprend quelque chose sur le vin. Si on laisse la grappe ou si on l'enlève, ça donne pas le même résultat. Il y a aussi un œil de chronique sociale entre le monde paysan, la famille dans laquelle on se trouve, la cour qui est toute simple, elle va dans les vignes avec une vieille quatrelle de la poste, et puis d'autres domaines qui les entourent, la belle famille du personnage de Jérémy, où là on est dans ce qui est devenu le vin dans des familles où on se rapproche du modèle justement un peu château bordelais, où il est très important de développer le no-tourisme, d'avoir un spa, où les projections, les ambitions sont un peu décalées par rapport au travail de la vigne.
Il y a cette notion de no-tourisme, c'est-à-dire que finalement, le fait de fabriquer du vin, on l'a vu, ça n'existe pas depuis des années, c'est depuis les années 80 éventuellement où ça a été créé. Où ça fabrique un tourisme particulier. Et ça, c'est vrai dans tous les pays en Europe, en tout cas. Et parfois, un tourisme... ça peut être un tourisme très chic ou un tourisme familial, parce que le no-tourisme n'est pas le même dans les régions en Côte-du-Rhône, par exemple, ou dans les grands châteaux en Bordelais. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment le vin fabrique tout un monde derrière qui n'est pas juste le travail, justement, de la viticulture ou de la vinification. Il y a vraiment tout ce qui est derrière, tous les négociants, toute l'économie qui est derrière, tous les voyages, parce qu'ensuite il y a tout le rapport avec la Chine, avec beaucoup de vignerons, à partir du moment où ils sont un peu connus, ils peuvent vendre à Hong Kong, au Japon, aux États-Unis. Donc il y a tout ça aussi, que ça devient quelque chose d'international assez rapidement.
Et comment l'artisanat rencontre la grande économie, en fait.
Exactement.
C'est un peu l'opposition entre l'artisanat et le business. C'est le côté un peu schizophrène d'ailleurs des... la situation, quoi.
Ouais, ouais,
parce qu'il faut être artisan, mais en même temps, il faut partir au grand export, et puis en même temps, il faut être... Et puis bon, à quel moment on bascule ?
Et ce qui fait d'ailleurs que
on bascule côté business, quoi.
Très terroir, localisé, avec des histoires familiales, maintenant, il y a les grandes boîtes LVMH ou...
achètent des domaines.
Qui achètent des domaines, qui du coup, c'est là où ça rentre dans la grande économie, et... où ça fabrique des problèmes compliqués, parce que je crois qu'au niveau foncier, une vigne, je sais plus ce que c'est les chiffres, mais c'était, je pense que c'était il y a 30-40 ans, c'était encore des choses envisageables pour une famille d'acheter une terre. C'est absolument plus envisageable. Et là, maintenant, il y a des espèces de programmes presque banquiers pour aider des vignerons bourguignons à soit être locataires de leur propre terre, soit achetés en s'associant avec des groupes financiers, bancaires. Et donc ça fabrique vraiment des problématiques très, très complexes, quoi.
Un autre thème qui est abordé quand même frontalement, c'est la place des femmes dans le vin, qui est aussi quelque chose qui active, enfin qui anime ce monde du vin depuis déjà plusieurs années, avec une revendication qui est de plus en plus forte et des femmes qui prennent... un poids, aujourd'hui qui sont installés, beaucoup de vigneronnes, ça c'est pas nouveau, mais il y a une prise de parole de ce côté-là.
C'est un peu nouveau, dans les années 70, il n'y en avait pratiquement pas.
Hein. Oui, voilà, il y avait des précurseuses. Mais,
donc elles étaient un peu invisibilisées, à part les veuves dans les grands domaines de Champagne, parce que c'était le seul moyen de...
La fameuse veuve Clicquot.
Les veuves Clicquot et autres. Ouais. C'est vrai que c'était invisibilisé, quoi.
Ouais. En tout cas, ça aussi, c'était... forcément un thème qu'il fallait
moi disons que j'ai essayé de faire une photographie de la réalité, et donc le monde viticole évolue beaucoup, et il y a beaucoup de femmes qui sont arrivées. Anne-Claude Leflève en Bourgogne, elle a vraiment une importance énorme, à la fois pour aussi on n'en a pas parlé encore de tout ce qui est biodynamie et tout ça. Ça a aussi été lié à cette présence féminine. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, maintenant, ça prend un peu le contrôle partout en France, pas seulement en Bourgogne. Il y a un chiffre qui était intéressant, c'est que la biodynamie en Bourgogne, en tout cas au moment où j'ai fait le film, c'était 10% de toute la Bourgogne et 60% des grands crus. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a un grand cru, on est beaucoup en biodynamie. Et on est 90%, enfin en tout cas il y a une dizaine d'années, donc à mon avis ça a augmenté. Mais je pense que c'était lié à l'arrivée des femmes, et pas que lié à Anne-Claude Leflève, mais moi je sais que j'ai parlé avec beaucoup de femmes vigneronnes, et où pour les femmes qui ont entre 40 et 50 ans aujourd'hui, le début c'était pas facile. Donc là, aujourd'hui, je pense que quand on est une femme de 30 ans qui devient vigneronne, c'est plus facile,
parce que
le terrain a été balisé,
Vous êtes déjà passé effectivement à ce sujet du bio versus la chimie. Il y a une scène très marquante avec le vigneron voisin qui arrose ses vignes habillé un peu en cosmonaute avec un masque à gaz. Problème de la proximité en Bourgogne qui fait que arroser une vigne, le rendre à côté, c'est une autre vigne, et celle-là veut être en bio, c'est un peu difficile de faire. En tout cas, on sait de quel côté vous placez votre caméra. On est plutôt du côté... Donc j'imagine votre goût en tant qu'amateur de vin.
Est-ce que tu as vu beaucoup de films qui placent la caméra du côté qui balance de la chimie?
Non, mais c'est un objectivité. C'est-à-dire que la famille,
je vois pas le propos.
Un peu bourgeoise.
À part un truc lobbyiste de Monsanto.
La famille un peu bourgeoise est un petit peu
ridiculisée.
Et c'est assez drôle d'ailleurs. Souvent, ça donne il y a cette scène, moi, qui m'a refait éclater de rire quand je l'ai revue avec, c'est Anselme, je crois, le propriétaire, qui explique de loin. Et puis ce stratagème là, du dialogue refait à distance par Pio Marmaille à son frère, en expliquant
et là
je vais mettre un aéroport, là je vais déplacer la colline et mettre un aéroport entre ces deux arbres. Alors, il y a ce côté folie des grandeurs où il faut... Donc on sait où vous vous placez. Est-ce que, en tant que amateur de vin, c'est aussi des critères, voilà où j'en arrive pour ma question. On va glisser rapidement du film vers Cédric Lapiche, l'amateur de vin. Le
non, alors c'est vrai que moi, je suis évidemment pro-bio. Après, moi, j'ai vu des gens très très orientés vers le bio et qui étaient obligés de revenir à de l'agriculture traditionnelle parce qu'il y avait un champignon, parce qu'il y avait une maladie dans leur vigne, et qu'ils pleuraient de revenir en arrière parce qu'ils savaient qu'ils pourraient plus avoir l'appellation AB au bout de... Enfin, je crois qu'il faut 3 ans ou 5 ans. Et donc, du coup, ils savaient qu'en le faisant une année, ils étaient obligés, pendant 3 ans, de ne pas avoir l'appellation. Pour eux, qui étaient vraiment très pro-bio depuis plus de 10 ans, le fait de revenir en arrière pour des raisons, on va dire, médicales, c'était une horreur pour eux, quoi. Mais parfois, on est obligé. Donc, je vois bien que c'est pas juste un vœu pieux d'être bio. C'est que, voilà, il y a des maladies, disons, des plantes qui sont difficiles à traiter. Donc on est, même si on n'aime pas Monsanto et si on n'aime pas le Roundup, il y a parfois, je connais oui, mal
c'est
le,
pas,
le
vous n'êtes pas l'ayatollah du bio.
Voilà, c'est ça, ouais.
Vous pouvez boire des vins qui ne le seraient pas.
Et puis, il y a des problèmes économiques. C'est qu'être en biodynamie, c'est pour ça que c'est plutôt les grands crus qui sont en biodynamie. C'est que c'est plus cher, il faut plus de main-d'œuvre. Que dès qu'il pleut, il faut traiter avec des traitements qui sont plus chers. Donc, je comprends toute la problématique économique qui est derrière.
Quel regard vous portez sur le vin à Paris ? À Paris, c'est un peu un village d'amateurs de vin, enfin, surtout le cœur de Paris, le 11e, enfin, ces quartiers qui sont a priori les vôtres. Ouais, on associe tout de suite.
Non, mais j'habite dans le 11e et je vois bien que le 11e devient la capitale parisienne du vin nature.
Du vin nature. Chacun cherche son vin, en fait.
Chacun cherche son vin.
Sans mauvais jeu de mots.
Non, alors moi je suis assez classique là-dessus. C'est-à-dire que moi j'ai mon scénariste Santiago Amigorena qui est très vin nature. Et qui m'a initié à
ça. Qui est le co-scénariste de Ce qui nous lie.
Ouais. Et donc, j'ai appris à aimer le vin nature en découvrant plein de choses qui sont super intéressantes. Parce qu'il y a beaucoup de restaurants, justement, de grands restaurants, pas que dans le 11e, mais à travers la France, où on ne sert plus que du vin nature. Et donc, du coup, il y a vraiment un truc à découvrir. Donc, je m'y mets, je dirais. Et je suis vraiment en découverte de ça, avec vraiment des très bonnes surprises. Mais les plus grandes émotions, c'était du vin pas nature que j'ai eu. C'est-à-dire que je peux beaucoup aimer des vins nature, mais les chocs que j'ai pu avoir gustatifs...
Par exemple ?
Quand on va faire une dégustation à la Romaine et Conti, on comprend la problématique. Donc c'est un peu difficile de s'acheter des bouteilles, mais... Voilà, les grands vins comme ça, ou même dans le Bordelais, moi j'ai parlé d'Aubryon, de Cheval Blanc, les grands vins comme ça, on comprend pourquoi c'est des grands vins. Enfin, c'est-à-dire que c'est vraiment assez phénoménal le degré de sophistication qu'on a. Des vins, j'ai vu Château Yquem là sur la carte, des vins comme ça, enfin, c'est assez fou quoi, ce qui se passe dans la bouche, quand on boit du Château Yquem, on a l'impression que c'est pas une histoire de longueur de bouche, c'est carrément, il y a une espèce d'histoire qui se passe.
Ouais, d'enroutement. C'est Grégory Lépoussé qui nous disait, voilà, Gabriel Lépoussé, pardon, quand je bois un vin, ça déroule un film, en fait.
Ouais,
et la qualité du vin, c'est la qualité du film qui se déroule.
Il y a vraiment.
C'est sa longueur, il y a un rebondissement. Chaque fois que j'y reviens, il y a une autre scène qui apparaît, ou il y a quelque chose qui apparaît. Et donc, il prenait cette image-là du déroulé du film, d'une pellicule.
Ouais.
Et souvent, la qualité d'un vin, c'est la qualité de sa pellicule. Et la qualité du film qui déroule. Donc, c'était intéressant ce genre d'image.
Ah oui, mais complètement, parce que c'est un peu comme quand on va dans un restaurant. Je pense que tout le monde a fait l'expérience d'aller dans des bons restaurants, et puis un bon restaurant du coin ou un étoilé, il y a plein de choses. Mais en tout cas, il y a cette notion de voyage gustatif. Moi, c'est ça qui m'a impressionné la première fois que j'ai été dans des bons restaurants. C'est comment, moi je me rappelle d'un cappuccino de champignons, où c'était une espèce de mousse, vraiment comme un cappuccino fait à partir de champignons. Et je me suis dit, c'est fou ce qui se passe dans ma bouche. C'est-à-dire que bon, ça dure longtemps. Et on se dit, voilà, encore aujourd'hui, alors que j'ai bu ça il y a 30 ans, je sais pas. Je me souviens du goût. C'est-à-dire, je peux rappeler le goût dans ma tête. Et c'est pareil, j'ai pas bu souvent du Château Yquem dans ma vie. Mais je sais quel goût ça a, quoi. Donc ça, c'est assez étrange de se dire exactement comme quand on a vu une photo, on se souvient qu'est-ce qu'il y a sur cette photo. Là, on se souvient d'un goût. C'est assez rare, en fait.
Ouais, ça revient autant. C'est parce que c'est directement connecté au cerveau reptilien, ce qu'on se disait avec Grébel et l'épousée. Donc c'est vraiment la mémoire, c'est la Madeleine de Proust, encore une fois.
Ça, ouais.
Et ça permet de revivre le moment, en fait. Et c'est sûrement la mémoire la plus ancrée, l'anamnèse de Proust. Qui se fait à travers le gustatif et l'olfactif.
Ce que vous disiez sur le récit, quoi. C'est-à-dire que quand on a lu un livre et qu'on aime bien le passage qu'il y a dans certaines pages, il y a vraiment cette notion de se souvenir d'un moment. C'est vraiment comme un récit ou comme un voyage. Ouais.
Ce que j'ai bien aimé dans le film aussi, c'est le titre. Et notion, le fait de lien, de lit, mais aussi de lit du vin. Parce que finalement, la lit du vin, c'est un peu le souvenir du vin.
Oui.
C'est ce qui reste quand le vin a fait sa fermentation. Et en fait, je pense que, sur la notion de mémoire, etc., etc., c'est vrai que le titre, alors ça, c'est mon côté un peu.
Le titre est parfait.
Moi, je trouve le titre entre guillemets parfait, c'est-à-dire qu'on parle de tout ce qui lie la famille, les projets, le travail, hein, la première fois qu'ils se relient ensemble, parce qu'ils se fâchent un peu, hein, Jean et Jérémy, au début. Mmh. La première chose qui les relie, c'est, allez, on va bosser, on va bouger la cuve.
Et il y a aussi le vin, l'ivresse, parce qu'on n'en a pas parlé.
Oui, mais c'est dans ce qui nous lie, il y a la convivialité,
ouais,
qui est le moment
ça,
de fête.
Ouais. Ouais.
Cette scène de la polée, vous êtes inspiré de scènes de polée, oui. Donc la fête de fin des vendanges.
Oui, parce que c'est fou l'état dans lequel les gens sont. Après, ça peut être, moi j'ai filmé le carnaval à Dunkerque, il peut y avoir le même genre d'ambiance. Ah, dans des fêtes comme ça, un peu traditionnelles. Mais il y a quelque chose de très fort.
Pour l'avoir fait, le carnaval de Dunkerque, c'est aussi lié à un facteur qui est un peu d'ivresse, quoi.
Ouais, bien sûr.
Qui est l'ivresse alors contrôlée, encore une fois.
Hein, mais c'est une ivresse collective, en fait. C'est comme dans les fêtes à Dax ou dans le Sud. Mmh. Tout le monde est bourré, quoi. Enfin, et donc,
tout le monde est méché, quand même.
Et donc, c'est assez fou quand c'est à ce niveau-là. Parce qu'il y a un lien, quoi. Il y a quelque chose qui fait que les gens sont liés. Et encore une fois, les images Bacchus, du Dionysos, qui sont des images assez anciennes, hein, du monde romain ou du monde grec, racontent ce lien que les gens veulent avoir et qui est un lien populaire aussi.
C'est aussi un thème que vous choisissez d'affronter, d'adresser un peu frontalement. Le vin, c'est aussi l'ivresse.
Oui.
Ça ne peut pas être juste une dégustation, quelque chose de raffiné. Il y a une confrontation à un moment dans le film entre Pio Marmaille et justement le beau-père de son frère, Anselme, qui recracher, c'est pour les couilles molles, je crois. C'est le grand-père qui disait ça. Bon, on peut en penser ce qu'on veut, mais voilà, il ne s'agirait pas de séparer le vin.
Non, parce que c'est assez drôle. C'est un peu pour me moquer, ou en tout cas pour mettre l'accent sur la culture française, où à la fois il y a une culture de sophistication avec vraiment ce que sont les grandes maisons en France, avec un truc de
raffinement. Il faut toujours bien se tenir.
Voilà, il faut bien se tenir. Et ce que fabrique le vin, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui fait que, moi j'ai été aux réunions des chevaliers du Tastevin, où il y a le mélange des deux, il y a quelque chose de très paillard, mmh. avec quelque chose de très aristocratique, et ce mélange-là...
Une espèce de solennité paillarde, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est vrai que c'est une spécificité française. Parce que la culture française, elle est comme ça. Elle est comme ça en littérature, où il y a les...
Il y a un côté rite païen, quand même, un peu, quand même.
Ouais, mais je trouve qu'il y a ça. J'essayais de trouver un lien avec la littérature, mais c'est vrai que dans les gens comme Céline, par exemple, qui n'est pas complètement pareil que chez Proust, mais chez Céline, il y a ce goût du très populaire, voire crade, avec quelque chose d'assez grandiose, sophistiqué, parce que c'est la langue française qui est vraiment poussée dans sa sophistication. Et je trouve qu'on a souvent ça dans la culture française, de mélanger le bas et le haut, le grandiose avec le misérable, le côté Victor Hugo, quoi, où il peut y avoir quelque chose de religieux avec quelque chose de très populaire, quoi.
On a déjà bien avancé, on va pas vous retenir des années, mais j'ai encore des toutes petites questions. Une que je pose avant de l'oublier, pourquoi Ce qui nous lie est le seul de vos films dans lequel n'intervient pas l'excellent acteur Zinedine Soilem?
Oui, c'est vrai que...
Pourquoi assez... je me suis dit, ils se sont fâchés, mais en fait, non, il est de retour dans les deux suivants.
Je pense qu'il est présent quelque part, je me rappelle plus...
Ah, il est bien caché.
Ouais, il est... Ah non, oui, c'est ça. Il avait un rôle assez important et il a été coupé au montage. Donc, en fait, il y avait une scène c'était une scène qui me faisait mourir de rire. C'était en hiver où il s'ennuie un peu pendant l'hiver. Ils allaient dans une boîte de nuit et il draguait Anna Girardot. Et c'était très drôle. Et en fait, on a été obligé de la couper parce que le film était trop long. Mais donc, il était censé être là, en tout
D'accord.
cas.
Ouais. D'accord.
On est rassurés.
Et de quoi est faite votre cave? Est-ce que vous êtes du genre à garder des millésimes, à avoir cette approche de savoir exactement ce que j'ai du Bourgogne, j'ai du Bordeaux, j'ai de tout, des blancs, des rouges.
J'ai du Bourgogne et du Bordeaux, j'ai des vins de Loire et des vins de Côte-du-Rhône, disons, justement Châteauneuf-du-Pape ou tout ce qui est Crozes-Hermitage ou différentes sortes de Côte-du-Rhône. Du blanc et du rouge. Oui, je suis assez diversifié parce que j'aime beaucoup les vins italiens aussi. Donc voilà, j'ai des choses assez différentes. Ouais.
On continue à acheter beaucoup de vins, à les mettre en cave.
Oui, alors j'avoue que pendant un moment, j'achetais beaucoup de Bordeaux. Au moment où mes enfants sont nés, j'ai acheté beaucoup de Bordeaux de leurs années. Et puis là, depuis le film, j'avoue que j'achète plus de Bourgogne parce que c'est aussi des gens que j'ai rencontrés et où... j'ai du mal à ne pas leur acheter du vin à eux. Donc il y a un attachement aussi affectif avec des personnes, quoi.
Et justement, là, on n'a pas parlé, mais on boit des vins. Vous avez choisi un Bourgogne, donc pour être complet, de Sylvain Pataille, donc un Bourgogne blanc qui est un méchalot blanc. Donc c'est entre guillemets, je dirais pas à l'entrée de gamme, ça va être le deuxième, parce que c'est un Bourgogne, mais avec une appellation et un terroir. Est-ce qu'il vous parle ce chardonnay
Il est très très bon. Il a un côté fruité, je dirais un peu abricot. Il est très particulier parce que il a un côté sec et fruité, ce qui est assez rare. Ouais.
Enfin, en tout cas, Sylvain Pataille, qu'on a eu l'occasion de déguster déjà, pas de rencontrer. Il travaille effectivement beaucoup sur l'approche terroir. Donc, normalement, un côté très droit, très, très minéral. Et après, il essaie de travailler ce qui est assez rare, je pense, sur un Bourgogne. Et on peut avoir des Bourgognes à prix abordable et de bon niveau.
Ah oui, ce qui est
difficile, hein,
ouais.
Quand même, globalement. Et ça, je pense que ça en fait partie. Dans l'appellation Bourgogne, il y a encore des choses très intéressantes quand on a des grands vignobles.
En fait, oui, il y a des vins qui sont particulièrement réussis en Bourgogne. Et qui sont beaucoup moins chers que des grandes appellations. Dans les blancs, il y a Rully, Montagny, Saint-Romain,
Givry.
On va dire
la Bourgogne périphérique par rapport à celle
qu'on connaît.
Saint-Aubin.
Mais même dans la Bourgogne, dans le cœur de la Bourgogne, parce que là on est au cœur de la Bourgogne, sur une appellation Bourgogne, village, il peut y avoir des choses intéressantes aussi.
C'est
le message, je pense, de Sylvain Bataille.
Et d'ailleurs, parce que moi j'aime beaucoup acheter les vins de base des grands vignerons.
Ceux qu'on peut acheter, le domaine Leroy d'Auvenay, la Lobise de Leroy, son Bourgogne est très bien, mais il est quand même à 50 euros déjà.
Alors, chez les gens de Monty qu'on a mentionné, ou chez, il y a des domaines à Rully, Gencial.
Du Régencial.
Enfin, il y a vraiment des vins qui peuvent être très abordables. Nicolas Potel à Beaune ou
le domaine de Bélène.
Ouais, c'est ça, le domaine de Bélène. Enfin,
quand on a un grand auteur ou un grand réalisateur, même ses petits films,
même l'entrée de gamme,
sont sympas.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et l'autre question que j'avais envie de vous poser, on raccroche avec le cinéma. Est-ce qu'un grand film, comme un grand vin, se bonifie avec le temps? Est-ce que ça existe, un film qui, vu 10 ans plus tard, a encore plus de charme que
Ça sortie. Arrive souvent. L'exemple connu, c'est La Règle du jeu de Renoir, qui n'a absolument pas marché financièrement. Au moment de la sortie, personne n'a été le voir. Et c'est un grand film du cinéma français. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il est devenu connu plus de 10 ans plus tard. Et donc, il y a des films comme ça. Et d'ailleurs, je vais dire modestement, Ce qui nous lie a vraiment gagné. Je sais pas pourquoi, mais je dirais que son passage télé a mieux marché que son passage au cinéma. Et donc, du coup, il y a pas mal de gens qui l'ont découvert il y a peu de temps, alors que là maintenant, c'était en 2015, j'ai tourné.
2017, il est sorti en
2017 et j'ai filmé les vendanges 2015.
D'accord.
Et donc, je pense que, en plus, il y a des choses un peu périphériques. François Civil est plus connu aujourd'hui qu'à l'époque. Donc, à l'époque, personne ne le connaissait. Et puis maintenant, quand on voit Pio Marmaille, François Civil, Anna Girardot, c'est pas les mêmes acteurs. Donc il y a aussi quelque chose qui a gagné parce que avec le temps, ces gens-là sont plus connus. Donc oui.
Moi, je l'ai revu hier. Je trouve qu'il a pas pris une ride. Il y a cette notion du temps qui passe, et c'est une des premières phrases, je crois, de la voix off. Tout change chaque jour, et en même temps, rien ne change.
Oui.
Et ça résume un peu le rapport au vin, le rapport au temps.
Complètement.
Et à la mémoire.
C'est que le vin, il y a vraiment quelque chose d'un peu éternel, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment, on a l'impression, je vous disais que en filmant, parfois j'avais l'impression d'être dans des tapisseries du Moyen-Âge, quoi. Et en même temps, évidemment, c'est pas du tout la même époque qu'au Moyen-Âge. Donc il y a cette chose qui est très très ambiguë et très paradoxale, où le temps passe et le temps ne passe pas, quoi.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
J'avais pensé à une autre chose, c'est que encore, c'est un film qui m'a aussi bouleversé. Vous avez dit que ça vous rappelait quand vous alliez voir de la danse avec votre mère et votre tante, je crois. Donc il y a quelque chose de l'ordre de Ce qui nous lie et le film qui vous relie à votre père, et encore le film qui vous relie davantage à votre mère, où je suis en train de plonger dans la psychanalyse
non,
de comptoir.
Non, c'est pas faux. Forcément, on hérite des choses différentes de ses parents, et donc il y a ce que votre mère vous donne, vous laisse, et puis ce que votre père vous laisse. Non, c'est pas faux, effectivement. Mais dans Ce qui nous lie, J'ai beaucoup parlé de mon père en sortant le film, mais le rapport à la nature, certainement. Moi, je sais que ma mère aime bien peindre et elle peint beaucoup des arbres. Et donc, du coup, je pense que le goût de filmer les arbres, et justement aux différentes époques, différentes saisons, ça me vient plus de ma mère. Donc, même dans ce film-là, il y a un peu le mélange des deux. Ouais.
Merci beaucoup, Cédric Clapiche.
Merci.
C'était merci. Très agréable. À bientôt. Et bien, bon film. Je ne vous demande pas comment, dans la promo, quel est le prochain film. Ah, si, j'avais noté un truc. Quand on vous suit sur Instagram, on voit que vous êtes beaucoup en Grèce sur les derniers mois.
Oui.
Je ne sais pas ce que vous y jetez.
Bah, j'ai fait une série. Voilà. J'ai travaillé pendant presque un an en Grèce, à Athènes.
Vous avez goûté des vins.
Et donc, c'est la suite de l'auberge espagnole et poupée russe et casse-tête chinois.
La salade grecque.
Ça s'appelle Salade grecque et ça raconte l'histoire des enfants de Romain Duris et Kelly Riley. Et donc, ils ont 22 et 26 ans et ils vivent en Grèce. Donc,
et en Grèce, vous avez goûté des vins?
Ouais, j'ai goûté des vins.
Parce que j'ai fini extraordinaires
par, au début, je n'aimais rien de ce que je goûtais. Et en fait, j'ai beaucoup aimé certains vins. Et justement, dans la nouvelle génération des vignerons, c'est un peu comme en Italie. Je trouve que les vins italiens ont beaucoup changé ces 20 dernières années. Et c'est ce qui est un peu en train de se passer en Grèce, où justement l'arrivée du bio, la biodynamie, tout ça change beaucoup. Et donc les vins de Santorin, par exemple, j'adore. Enfin, il y a vraiment plein d'appellations qui sont vraiment
Assyrtiko, super. Donc les blancs.
Assyrtiko, ouais.
Encore les blancs. Ça y est, cette fois j'arrête. Merci beaucoup.
Merci
encore. Au revoir.
Au revoir.